Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Minuit vient de passer, l'after vient de se terminer. Sur RMC, c'est le moment de l'Église aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco. Mon invité de ce soir est Don Pierre-Antoine Bellet. Bonsoir mon père.
Bonsoir Matteo.
Je rappelle que vous êtes prêtre de la communauté de Saint-Martin à Laval et curé de la cathédrale de Laval, mais aussi l'un des idéateurs de l'espace Saint-Julien de Laval, à Mayenne, où se mêlent plusieurs générations et plusieurs âges. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, alors l'espace Saint-Julien que nous inaugurons très bientôt est, disons, un projet qui est né il y a déjà 6 ans entre bénévoles des paroisses de la ville de Laval et un projet auquel j'ai participé et qui est en fait un centre intergénérationnel qui va unir plusieurs projets de vie, des personnes âgées, des enfants, des adolescents et même un centre médical. Et ce projet est né voilà de la conjugaison du constat de plusieurs besoins et puis de la générosité de nombreux bénévoles qui ont travaillé ce projet depuis 6 ans et qui arrivent aujourd'hui à aboutissement.
Et d'où est venue cette idée de créer un centre de ce type ?
Alors, très simplement, cette idée, elle est venue d'un désir de la part d'un certain nombre de cadres chrétiens de la ville de Laval de faire du bien, de servir le bien commun. Un certain nombre d'entre eux étaient membres des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, voyant un petit peu les besoins sociétaux actuels, les personnes âgées, l'éducation, ils y étaient sensibles. De manière gratuite, ça s'est fait autour d'une pizza à Rome pour commencer. Et puis après, de manière un peu plus sérieuse, en se voyant régulièrement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas construire quelque chose, puisqu'il y avait une opportunité qui se présentait en nous, puisque la ville de Laval mettait en vente un grand espace, l'ancien hôpital de la ville en fait. Évidemment, c'était un projet qui dépassait nos moyens à l'époque, mais on a commencé à rêver et progressivement, le rêve a pu devenir réalité et le nombre de bénévoles a grandi. Chaque projet a été nourri, travaillé, et pour aboutir aujourd'hui à une inauguration de chaque projet, il y en a 7, eh bien, sur place. Voilà.
Vous avez parlé justement de l'espace Saint-Julien, parce que c'était un hôpital à un moment.
Oui, ça a été un hôpital. Alors, pour être exact, il y a une très belle histoire sur place aussi qui a, je dirais, inspiré et nourri notre projet. C'est que cet espace, qui ne s'appelait pas espace à l'époque, a été tenu par des religieuses de Saint-Joseph, qui ont exercé la charité pendant plusieurs décennies, depuis de longues dates. Donc, c'était un lieu apprécié des Lavallois. Un certain nombre d'entre eux, il y avait une maternité, ils sont nés, ont été témoins de la charité des religieuses qui sont parties autour des années 1970. Et le lieu, disons, était un peu en souffrance, pour pas dire en déshérence, ce serait un peu compliqué, mais on comprenait pour la ville que c'était pas facile d'utiliser ce grand lieu qui restait au cœur de la ville un peu inoccupé depuis un certain nombre d'années.
Et donc, vous avez parlé des utilisateurs et des résidents de cet espace, et qui, je rappelle, appartiennent à des tranches d'âge différentes. Mais comment s'articule l'offre de l'espace Saint-Julien pour ces différents tranches d'âge ?
Alors, à vrai dire, l'intuition fondamentale qui nous unit, c'est que les générations doivent se rencontrer. Pour chaque projet, on a fait le constat, bien peut-être d'un besoin, voire d'une souffrance. Par exemple, on a nommé la solitude de beaucoup de personnes âgées et le Covid n'a fait que confirmer cette situation. On voit peu de monde et on a remarqué aussi que dans l'éducation, moi-même je suis plutôt éducateur depuis une vingtaine d'années, et à chaque fois qu'on a pu faire se rencontrer des jeunes gens avec des personnes âgées qui partageaient leur goût, leur histoire, leur talent, eh bien, ça faisait beaucoup de bien à ces adolescents et ces enfants. Ça apportait une certaine simplicité, une certaine fraîcheur, une éducation au respect je dirais, ça travaillait la valeur de la transmission. Voilà, prenant note de tout cela, eh bien, on a pensé des projets qui, évidemment, sont différents. Par exemple, une résidence senior, comme c'est un des projets, eh bien, elle a sa vie propre. Tout le monde ne va pas vivre ensemble. Mais à côté de cette résidence, on a souhaité, parce que c'était possible, que ça répondait à des besoins locaux, qu'il y ait une crèche, qu'il y ait un centre périscolaire, qu'il y ait un internat de garçons qui existe déjà, mais qui va déménager sur place. Et l'enjeu, par exemple, à travers ces quatre pôles, eh bien, c'est déjà de créer, par des activités adaptées, des rencontres, des moyens que chacun puisse grandir. Donc, tout le monde est éduqué dans cette perspective-là, y compris les personnes âgées qui, j'allais dire, prennent conscience que leur vie a une grande valeur, qu'elles sont heureuses de transmettre, heureuses d'avoir un peu de joie. Et en même temps, voilà, elles ont leur rythme propre, évidemment, leur salle à manger propre. Ce n'est pas indifférencié comme lieu, mais il y a une grande proximité géographique qui permet ces échanges.
Et est-ce que vous pensez que cette interaction entre générations puisse être, comment dire, comparée à une forme d'éducation, à une forme de formation aussi ?
Oui, alors je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins de relations qu'on a aujourd'hui dans notre société, mais ça peut être à la fois apporter du bien à ces personnes qui seront sur le site, hein, qui seront quand même à terme près de 300, toutes générations confondues. Et en même temps, ça envoie aussi un message au cœur de la ville, un message, j'allais dire, d'espérance, pour montrer que on ne peut pas vivre sans les autres, qu'il y a besoin de cette complémentarité des âges. On est sensible à accueillir vraiment tout le monde, quelle que soit la personnalité, et puis l'histoire, et puis même l'origine sociale de chaque personne. Et bien sûr, je pense que ça forme tout le monde, et y compris, même si le mot éducatif peut paraître un peu curieux pour des personnes âgées, je pense que ça donne sens à l'âge avancé.
On n'arrête jamais d'apprendre.
Ouais, exactement, et que les personnes âgées sont pas simplement en mode attente, et sont aussi en mode transmission. Nous avons besoin d'eux. Ils doivent comprendre que les jeunes gens, sans eux, le pape François le répète à satiété dans ses dernières conférences quand il parle de l'importance des grands-parents, que les petits, les enfants, les adolescents ont besoin tantôt de la tendresse quand il s'agit de nourrissons, tantôt de la parole, de l'exemple, tantôt parfois de l'histoire et des savoir-faire. Ils ont besoin de leurs aînés. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une société du profit, de l'immédiateté, de l'efficacité, bien, perdre du temps, et vous comprenez, pour moi, c'est pas perdre du temps.
Oui, c'est une métaphore.
Consacrer du temps à cela, eh bien, ça me paraît essentiel.
Et quels sont justement les pôles, comment vous les avez appelés?
Oui, alors, progressivement, ils ont en quelque sorte, en faisant l'objet d'une étude spécifique sur leur opportunité agrégée à notre projet. Donc, il y a une résidence senior de 64 appartements. Il y a donc trois pôles éducatifs, on pourrait dire. Alors, il y a une crèche pour des nourrissons. Il y a un centre périscolaire, c'est-à-dire un lieu d'éducation comparable à ce qu'on appelait les patronages dans un certain temps, c'est-à-dire des enfants viennent à l'issue de l'école, eh bien, jouer, se former,
faire les devoirs,
ou un tutorat scolaire, justement, que des personnes âgées peuvent assurer. Il y a aussi donc un internat de garçons, c'est un peu spécifique à Laval, mais où, je dirais, il y a beaucoup de lycées, de collèges qui sont présents. C'est un internat où les garçons vont dans les établissements divers de la ville. Et donc, ça constitue différents âges. Et puis, on a pensé aussi qu'il y avait un besoin en Mayenne. Je ne sais pas comment c'est dans le sud de la France, à Monaco, mais en tout cas, Mayenne, on n'est pas dans un désert médical, mais ça y ressemble. Et on a pensé qu'un tel projet pouvait intéresser des médecins, et ça s'est réalisé, puisque trois médecins, deux médecins généralistes, un médecin psychiatre et d'ailleurs trois infirmières sont arrivés sur le site, non seulement pour évidemment le bien des résidents, mais participant de cet esprit intergénérationnel aussi, eh bien, ils servent les patients de la ville, évidemment. Donc ça a été un pôle, voilà, qui est appelé à être une maison médicale. Et puis enfin, alors ça fait partie peut-être de l'esprit rural, local, mais on est très attaché au bar.
Ailleurs aussi, vous inquiétez pas.
Il y aura, j'imagine. Mais je pense que c'est un lieu social, comment dirais-je, d'égalité. Il y a des très beaux textes sur le fait que, évidemment, quand c'est conduit avec une certaine vision, eh bien, ces lieux-là, de convivialité, tout simple, eh bien, tout le monde peut y venir. C'est un lieu où chacun peut s'asseoir. Et donc, ce sera un bar qui va naître. Et évidemment, mais on a souhaité que on soit accueilli par la fragilité. Donc ce sont des, pour un certain nombre, des personnes porteurs de handicap à qui on apprendra à faire le service. Parce qu'évidemment, dans tout le projet, cette ligne du respect de la fragilité, du respect des personnes est présente, quoi. Et donc ça nous paraît très beau que quand on soit accueilli à l'espace, on soit d'abord accueilli par des personnes un peu fragiles qui nous offrent leur simplicité, leur sourire un petit peu, comme les Cafés Joyeux. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent un petit peu cette magnifique inspiration c'est le sourire d'une personne un peu fragile qui vous accueille et qui vous désarme et qui vous apporte de la joie, finalement.
Et donc, cet espace convivial, c'est un peu la place de ce mini-village, si on veut, oui, au cœur de la ville.
Absolument. Alors voilà, chaque projet va prendre son ampleur un peu comme la Providence le permettra. C'est notre souhait, en tout cas, que ce lieu devienne un lieu où on aime venir et on sait qu'on y sera accueilli dans la bienveillance. On a écrit d'ailleurs une charte. Et la bienveillance est un de ces grands axes qui veut animer l'espace, c'est-à-dire la bienveillance, la responsabilité, le service de l'autre, le respect de la vie dans toutes ses dimensions, et puis l'ouverture à la foi et à la vie spirituelle d'une manière générale.
Et dans les prochaines années, l'espace Saint-Julien a vocation à évoluer ultérieurement ?
Écoutez, ce qu'on se dit, c'est que c'est déjà pas mal si on arrive à faire fonctionner tout ça. C'est un projet donc innovant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certaines fondations nous ont soutenus pour son caractère d'innovation sociale. Nous avons eu c'est un projet bénévole, hein. Il n'y a aucun profit financier. Tous les bénévoles s'engagent, y compris quand ils pourraient être professionnellement acteurs du projet, à ne pas en bénéficier du tout. Donc c'est un projet de bénévolat. Et donc pour ça, il nous fallait des soutiens. Et certaines fondations nous ont suivis. Nous accordons, l'image d'une innovation un peu inédite. Donc déjà, il faut qu'on arrive à faire ceci, et nous verrons dans la suite si d'autres causes peuvent être suivies. Mais voilà, c'est déjà un beau défi d'accomplir ce que nous souhaitons faire avec ce qui est sur place.
Pour vous contacter, comment on peut faire ?
Eh bien, écoutez, vos auditeurs, même si ils sont un peu loin, mais nous sommes proches au moins par les convictions et le désir qu'on a de faire du bien. Eh bien, ils peuvent aller sur le site internet Espace Saint-Julien, espacesaintjulien.fr, je crois, qui trouveront facilement un très beau site qui présente le projet. Et là, il y a des coordonnées. S'ils veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et au passage, puisque on est dans une émission chrétienne, eh bien, priez aussi pour nous, pour que l'Esprit-Saint nous aide à faire de ce projet un projet qui reste positif, tourné vers les autres, et voilà, qui montre la bienveillance de l'Église à l'égard de tous.
Et je rappelle, comme vous avez dit au début de cette émission, que c'est un projet qui est né autour d'une pizza à Rome.
C'est un peu ça, tout à fait. Et pour quelqu'un qui s'appelle Mathéo, je sais que ça va vous plaire.
Ça touche mes cordes, oui. Merci Don Pierre-Antoine Bellet. Il est désormais le temps, malheureusement, de conclure cette émission. Avant de vous laisser à la programmation de la nuit de RMC, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur l'appli et sur le site de RMC. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine, au prochain samedi. Et je vous souhaite une bonne nuit.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.